les Amérindiens, on en parle. De chez moi, on en parle. On n'en parle pas. On a coupé leur nez, leurs oreilles. Hein? Les Guyanais, à la base, c'est les Indiens. C'est pas nous, les Noirs. Les Indiens, on a coupé leur nez, leurs oreilles parce qu'ils voulaient pas qu'ils se révoltent et tout. Mais on n'en parle pas, ça, on n'en parle pas. Vous savez qu'on m'a déjà dit que la Guyane, c'est en Afrique.
Voilà, il y en a qui savent, qui carrément
ça. Non, on m'a déjà dit ça. Ah, la Guyane, c'est en Afrique, ça, je connais. Vos ancêtres, les Gaulois.
Oui, mais nous, nous ne sommes pas Gaulois.
Donc, c'est pas notre histoire, en vrai. On a notre histoire, quand même, de notre côté. Après, je veux bien connaître l'histoire de la France, mais si vous vous intéressez pas à la nôtre...
Faudrait que, déjà, l'éducation française puisse faire quelque chose pour notre histoire. Que, bon, ben, nos ancêtres, les Gaulois... Ça, c'est pour vous,
les Blancs.
Pas les Blancs, mais les métropolitains, les... Arrête, monde.
On sait que les ancêtres, les Gaulois, c'est complètement absurde comme référence.
C'est complètement absurde.
Voilà. Mais vos ancêtres, quand même, c'était les Gaulois. Quand même. Mais il y a quelque chose qui s'est fait dans l'histoire. Il faudrait que l'éducation nationale puisse nous dire s'il y a une classe avec une majorité de Noirs dans la classe, il ne faudrait pas qu'on dise, oui, nos ancêtres, les Gaulois. Non, nos ancêtres, les Africains. On apprend l'histoire d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on nous fasse la culture de nos ancêtres, nous les Noirs. Vous aussi, vous les Blancs, vous avez vos ancêtres les Gaulois, nanana, les Vikings et tout ça. Moi, j'aime bien cette histoire-là, mais il y avait nous aussi les Noirs. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est ça qui fait que la nation se tue.
Moi, je vais parler.
Nova.
Rouge piéton, contre-allée, place de la nation.
Nova. Nova promène ses oreilles. Liberté,
République, souveraineté, humanité, égalité,
place de la nation,
peuple,
fraternité,
démocratie.
Jacques Souvent,
Nova,
nation.
Vous savez ce moment où on prend un verre à la terrasse d'un café, qu'on se pose un peu et qu'on regarde les gens passer, qu'on imagine la vie de celui qui vient de s'arrêter devant la bouche du métro et qui cherche autour de lui à s'orienter le long d'une rue, un repère, un signe, qui appelle pour dire qu'il est bien arrivé, et puis qui sourit parce qu'il est heureux, et parce que vraiment, on va venir le retrouver, et qu'il est rassuré. C'est qui? Il vient d'où? C'est un touriste? L'ami d'un ami? Un amant? Un homme qui, dans 373 secondes, va courir après son téléphone que le mec assis sur le banc va lui piquer? Un homme qui, dans son sac, a un livre sur la Révolution ou la Garde Nationale? C'est qui? Et cette femme qui rattrape au vol son skate pour monter sur le trottoir, et qui, sans le vouloir, reçoit un tract tendu par un militant qui profite d'un espace pour glisser dans sa vie les convictions d'un autre. On regarde, on se regarde de loin, à distance. On imagine. Combien de temps la durée du regard aujourd'hui pour qu'il ne soit pas de trop? Place de la Nation, il est 13h à l'est de Paris, le 6 mai 2017, au bord de la rue du Faubourg Saint-Antoine. La place publique, ce point fixe qui se bouleverse à chaque seconde, qui reçoit les clins d'œil de l'instant comme les mouvements historiques. Cette histoire qui passe en accéléré devant vous avec ses bronzes, ses vestiges et ses voix qui continuent de scander, ici, sur ce haut lieu de rassemblement. Place de la Nation, place politique cette semaine, place d'occupation ou d'affrontement. On se retrouve maintenant, tout de suite, au pied de la statue de Jules Dany.
Donc, je m'appelle Mathilde Larrère, je suis maître de conférence à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Et je travaille sur les révolutions et sur l'histoire de la citoyenneté au 19e siècle essentiellement, donc en histoire politique. Sinon, je fais des tweets.
Elle est sortie !
Ah oui, il paraît que vous êtes la spécialiste du tweet.
Bah, j'aime bien. C'est un mode d'expression et d'éducation populaire qui m'amuse profondément et que je trouve très utile. Donc, ouais, j'en fais pas mal.
C'est pas hyper compliqué de résumer un petit peu des faits historiques ou des notions comme ça en combien, 140 caractères ?
Ouais, alors en fait, je fais plusieurs tweets, donc il n'y a pas que 140 caractères. Si, c'est compliqué, mais c'est marrant, c'est un peu comme l'Oulipo, c'est-à-dire que c'est une contrainte, donc c'est drôle de jouer avec les contraintes. Donc ça m'amuse. Bon, maintenant, ça fait longtemps que j'en fais, donc je commence à savoir faire. Au début, c'était un peu dur, mais maintenant, je les ai en tête, les 140 signes. Je sens quand je suis en train de les dépasser. Comme on finit par avoir un temps en tête quand on passe à l'oral, et ben pareil, on a un nombre de signes en tête.
On est au pied de la statue de Jules Dalou, le triomphe de la République, et il y a eu un tweet sur cette statue. Lors d'un discours, Manuel Valls avait évoqué le sein de Marianne.
Sur la place des femmes, mes chers amis, nous ne pouvons pas transiger. Une société démocratique, libre, égalitaire, se juge d'abord peut-être aujourd'hui sur la place des femmes. La place des femmes, la conquête de leur liberté, c'est le combat historique de la gauche. Et puisque vous parlez les uns les autres, et vous le faites bien, vous parlez de Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter.
Ça vous a pas plu?
Ouais. Alors en fait, ouais, il n'avait pas évoqué cette statue. Il avait évoqué une figure de Marianne, le sein découvert, et disait-il la tête nue, ce qu'elle n'a pas en fait. Je pense qu'il faisait plus référence à la liberté guidant le peuple de Delacroix, qu'il a, à mon avis d'ailleurs, confondu avec une Marianne, alors que ce n'est pas une Marianne, mais bon, passons. Mais en fait, surtout, c'était un discours qu'il faisait pour essayer, dans le contexte des arrêtés anti-Burkini, pour montrer, sans le dire, que la République est incompatible avec le voile, l'islam, etc. Et donc, j'avais réagi pas tant à son erreur historique, parce qu'à vrai dire, il ne fait pas un cours d'histoire et je ne suis pas sa prof, donc il raconte ce qu'il veut, finalement. Mais comme c'était une instrumentalisation de l'histoire, notamment de l'histoire de Marianne, dans un contexte de conflit politique, là, j'ai réagi un peu de façon virulente. Donc effectivement, j'ai fait un premier tweet où je lui ai dit « Mais non, elle n'a pas le sein nu à cause de ça, c'est parce que c'est une allégorie. » Et j'ai dit « Crétin », donc ça a fait un choc, ouais. Et puis après, en fait, j'ai fait l'histoire de la Marianne. J'ai fait ce que je fais tout le temps sur Twitter, c'est-à-dire ma série de tweets. Et j'ai raconté l'histoire de Marianne et j'ai expliqué pourquoi ce symbole, que signifie le sein nu de Marianne, pourquoi est-ce qu'elle est pas tête découverte, mais avec un bonnet phrygien, etc., etc. Et ça a fait un buzz, voilà.
Et cette explication alors du sein de Marianne, on peut la voir en 15 secondes.
Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux figures de Marianne, une Marianne sage, qui est la Marianne libérale, qui est la République libérale, et une Marianne radicale, qui est la Marianne à sein nu. Et en fait, chacune des républiques, c'est des programmes politiques complètement différents, politique sociale dans un cas et pas dans l'autre, a sa Marianne. Et en fait, les Mariannes radicales ont toujours, et très souvent, le sein nu, parce que, en fait, c'est un symbole de la politique sociale. C'est effectivement la Marianne qui nourrit le peuple. C'est d'abord parce qu'elles sont souvent guerrières, donc ça peut être aussi une reprise. Souvent, les Amazones, par exemple, ont le sein découvert. Donc, il y a le côté guerrier qui n'est pas toujours présent dans la Marianne libérale, qui, elle, est plus sage. Et puis, il y a le côté politique sociale, c'est-à-dire que nourrir le peuple, c'est le droit de subsistance, c'est le droit au travail. C'est tous ses droits. Donc en plus, ça m'énervait qu'il mobilise justement des droits sociaux que son gouvernement était en train d'enterrer un peu les uns après les autres. Et le bonnet phrygien, il est classique aussi de la Marianne radicale, alors que la Marianne sage, elle va avoir une petite couronne de laurier, un diadème, une couronne de rayons, par exemple.
Et c'est celle qu'on trouve à la République, donc la plus austère, la plus sérieuse?
À République, on a une Marianne sage, parce que quand il y a eu le concours où chaque sculpteur a proposé sa Marianne, ou d'ailleurs Dalou a proposé celle-là, qui est une Marianne radicale, le sculpteur de République, dont je ne sais pas le nom, j'ai oublié, a proposé une Marianne sage. Elle a donc le sein couvert, elle est dans une posture beaucoup plus de matrone, celle-là est beaucoup plus, elle est dans le mouvement, elle avance, et les symboles qui y sont liés sont beaucoup plus sages. Donc, sauf que quand on a fait ce concours, au pouvoir étaient ce qu'on appelle les opportunistes, c'est-à-dire les républicains libéraux, et donc ils ont préféré une allégorie de Marianne sage et libérale. Alors que Dalou, lui, avait proposé un contre-modèle politique. Et sa Marianne a donc été mise sur la place de la Nation, et plus tard, à un moment d'ailleurs où la République, suite à l'affaire Dreyfus, va se radicaliser et donc être beaucoup plus à même d'accepter ce type de symbole.
Ça fait plus de 15 secondes.
Ouais, je sais, mais enfin, elle était dure, votre question.
Continuez de marcher ? Peut-être par ici ? En fait, vous embêtez les voisins et vous venez ici ?
Exactement.
C'est quoi comme saxo ?
C'est un saxo alto. Un Calvert, et je viens assez régulièrement ici pour jouer, pour m'entraîner.
Les voitures vont pas se plaindre ?
Non, je pense pas.
En fait, c'est assez calme, hein ?
Ouais, c'est plutôt calme. En fait, ce que je fais, c'est qu'il y a une heure pour les uns, il y a une heure pour les autres. Donc moi, je viens entre 20h et 20h30. À 20h30, c'est d'autres personnes qui viennent.
C'est-à-dire
qui prennent la suite.
D'autres musiciens ?
Je sais pas, des gens qui boivent un coup, des gens qui discutent, et puis...
Et brièvement, avant vous, c'était qui alors ?
Avant moi, je sais pas, j'en sais rien.
Et après ?
Et après, écoutez, je vous laisse aller vérifier tout à l'heure.
Ah,
place de la nation.
Nova.
Nova promène ses oreilles.
Vous avez reçu beaucoup de gaz lacrymogène ici ?
Ouh là là, j'en ai reçu des tonnes. En fait, la Nation, c'est un des trois sommets du triangle Bastille-République-Nation, qui est le triangle des manifestations de la gauche depuis les années 1930. En fait, c'est un moment où on va séparer l'espace parisien. Il y a une géographie manifestante qui se met en place. À l'ouest, les manifestations de la droite ou des ligues d'extrême droite. Et à l'est, les manifestations de la gauche. Alors, ça s'explique à l'est parce que c'est des quartiers plus populaires. Donc voilà, c'est la base électorale plus évidente.
La couronne rouge aussi.
Voilà. Et puis, bah, Bastille, la place de la Bastille, la prise de la Bastille, République, le symbole de la République, et Nation à cause de cette statue aussi. Et parce que au XIXe siècle, donc quand on a inauguré cette statue, c'est quand la République sort de l'affaire Dreyfus, donc c'est un moment important dans l'histoire de la gauche aussi. Donc c'est pour ça que c'est ce triangle-là. Et en plus, coup de peau, il y a des supers artères, donc c'est vachement facile de manifester. Donc les manifs, soit elles commencent, soit elles terminent à Nation. Ça arrive hein, qu'il y ait des trajets Bastille-Nation-République, mais en général, c'est soit Nation-Bastille, enfin, c'est soit le début, soit la fin. Et il se trouve que les manifestations de l'année dernière, de la loi travail, se sont souvent terminées ici, donc c'est là qu'on se fait gazer, parce qu'en général, on se fait gazer à la fin. C'est là, c'est une méga place quand on est nombreux. Parce que tout de suite, paf, là on fait masse. Si on n'est pas très nombreux, vaut mieux choisir une autre place.
Historiquement, il s'est passé beaucoup de manifestations ici.
Alors, il s'en est passé.
Dans l'histoire, je veux dire.
Déjà, il y a la fameuse manifestation de 99 qui est l'inauguration de la statue et qui est la manifestation.
1890.
Ouais, 1800. Qui est la manifestation de sortie de crise de l'affaire Dreyfus et qui est la manifestation de refondation du modèle républicain. La République sort régénérée de l'affaire Dreyfus en éliminant ses aspects finalement libéraux et un peu droitiers pour se recentrer autour d'une conception plus radicale qui va être aussi laïque, qui va être aussi plus sociale, pas complètement sociale mais plus sociale. Et cette sortie de crise, puisque l'affaire Dreyfus est quand même extrêmement fragilisant pour la République et la République s'en tire, elle est marquée par une énorme manifestation à la place de la Nation puisqu'il s'agit d'inaugurer cette statue. C'est aussi un grand lieu de manifestation syndicale parce que c'est vachement pratique pour apporter les camions syndicaux, gonfler les ballons. Enfin, il y a des trucs pratiques hein, aussi dans les manifestations. C'est chiant de gonfler un gros ballon, donc il vaut mieux pouvoir garer le camion. Et ça, elle est très bien pour ça. Bastille, elle est pas mal aussi. Hein, mais.
Place de la Nation. Nova promène ses oreilles.
Selon vous, quand est-ce qu'elle naît cette idée de nation ?
Le problème, c'est qu'il y a plein de choses derrière l'idée de nation. Alors, on peut considérer que l'idée de nation, au sens le plus proche du sens actuel, il naît dans les textes des Lumières et puis après sous la Révolution française. Mais à ce moment-là, la nation, c'est l'ensemble des citoyens. Et il faut bien voir qu'à ce moment-là, la citoyenneté n'est pas forcément couplée avec la nationalité, qu'à l'époque, on appelle la naturalité au demeurant. On pouvait très bien, sous la Révolution française, être citoyen, mais pas être français. Thomas Paine était anglais et citoyen français, puisque le citoyen, c'est celui qui participe à la vie politique. Donc la nation, c'est d'abord une nation politique, c'est l'ensemble des citoyens. En fait, elle a été pensée par les Lumières et reprise par les premiers révolutionnaires pour marquer le transfert de souveraineté du roi à autre chose qu'on a appelé la nation. Parce que le problème que se posent les révolutionnaires, c'est qui a la souveraineté ? Comme ils ne veulent plus que ce soit le roi, eh bien, ils vont la donner à la nation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette culture des Lumières et des premiers révolutionnaires, la nation, c'est pas le peuple. Et ils pensent la nation aussi pour pardire le peuple. C'est bien pour ça qu'ils font un suffrage censitaire, ils donnent le suffrage aux plus riches. Bon, à 60% des hommes en âge de voter à peu près. Et ça, c'est la nation. La nation, c'est ceux qui votent. Et après, il y a le peuple. Donc, il y a trois entités. Le roi, hop, lui, on lui a dégommé sa souveraineté. La nation qui est souveraine, mais qui n'est pas l'ensemble, qui n'est pas l'ensemble des Français, hein, qui n'est pas le peuple. Et à côté, le peuple. Et en fait, au fur et à mesure de notre histoire, peuple et nation vont un peu se mélanger. Et comme nationalité et vote vont se corréler et que le vote va devenir universel, on a tendance un petit peu à tout confondre. Si c'est l'idée de nation au sens ensemble des Français... Là, c'est quelque chose qui se construit avec la Révolution française, parce qu'elle formule le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc le droit de s'assembler finalement en nation et de se donner un État, contre les logiques impérialistes qui étaient les grands, enfin les empires continentaux en Europe, où par exemple les Allemands qui étaient divisés en petits États, ils voulaient se rassembler en un État unique, créer une nation, un État-nation allemand. Et donc la Révolution française transmet les idées qui permettent en Europe de nourrir un concept de nation qui est plus culturel, plus géopolitique et plus au sens où on l'entend maintenant. Et comme après l'Empire va lui-même exercer des logiques de domination impériale en Europe, contre l'Empire vont vraiment naître des sentiments que l'on peut appeler nationalistes, ou alors les historiens disent nationalitaires pour faire la différence. Et donc l'idée de nation au sens qui est le nôtre maintenant, en tout cas le sens commun, il se construit là. En fait, dans la Révolution française, il y a la rencontre entre un sens politique et un sens géopolitique et culturel, et qui est désormais confondu dans notre culture, même si en fait il est né de mouvements différents.
L'Occident mal famé a ses maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir. Prier nu avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle. Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semences d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Je n'aime pas les bengales des fêtes nationales, je préfère cette silhouette blanche sur une toile de Chagall. Le sans rien dire, collectionner des abraxas, le baron samedi du carnaval. La Marseillaise en créole. Son sabbat, un mercredi banal, le temps qui passe sans rien dire. Les ports abondants d'écriture de savoir, l'asthme à la dreadlocks dans une passe d'Occitanie. La Marseillaise en créole.
Jacques Souvent,
liberté, souveraineté,
égalité, place de la nation. Nova.
C'était Lojo, la Marseillaise en créole sur Nova. On est avec Mathilde Larère, maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de la Révolution et de l'histoire de la citoyenneté au 19e siècle. Fais gaffe à l'heure, parce que vous avez un rendez-vous.
Ouais.
Vous voulez qu'on rencontre qui, là ?
Ah, moi je suis d'accord pour rencontrer n'importe qui, hein, je suis pas sélective. Hein.
Mais là on s'arrête, là on regarde, il y a plein de gens, on va voir qui. Qui est-ce que vous avez envie de voir ?
Je sais pas, tout le monde.
Je sais pas, il y a un homme avec un téléphone portable.
Faut aller voir des gens qu'on va pas déranger. On a qu'à demander aux jeunes filles.
Jeunes filles, deux autres ici ? Ouais, d'accord, allons-y, on va demander. Bonjour. On vous dérange deux secondes, ça va ?
Oui, ça va.
On se balade sur la place de la Nation. La place de la Nation, elle est en travaux. Et du coup, on s'interroge un peu sur l'idée de la Nation, cette statue.
Pour moi, ça évoque pas grand-chose. Juste les lieux de manifestation. Rien d'autre.
Vous avez quel âge, là ?
17 ans.
Et est-ce que Nation, c'est un gros mot ou c'est quoi, Nation, si on revient à ce mot ?
C'est un esprit, en fait, une C'est vrai que c'est un grand nom pour une place. Enfin, c'est symbolique quand même, mais... c'est tout ce que j'ai à dire.
Et toi, ça évoque un truc pour toi ?
Si on me demande si je suis française, je vais dire oui. C'est vrai que j'habite à Paris. Bah, je vis en France depuis toute petite, donc en théorie, oui, je devrais me sentir française. Mais après, j'ai pas l'impression d'avoir ce sentiment en moi qui me dit... Oui, j'appartiens à un peuple. Par exemple, quand je vois des gens dans la rue ou dans le métro, je me dis pas, on fait tous partie d'un même peuple. Enfin, je me dis pas vraiment ça. Je suis plus un peu dans ma petite logique avec mon cercle proche, ma famille, mes amis, etc. Mais après, c'est vrai que je vois l'autre, mais je le vois pas comme lié à moi, entre guillemets.
Comment on peut avoir ce sentiment d'appartenance concrètement aujourd'hui, alors qu'on... entre nous, quoi ?
Franchement, j'en sais rien, mais... en plus, tout ça est le résultat de lois d'ouverture, de fermeture, d'exclusion, d'inclusion. C'est pas une histoire linéaire. On a inclus des gens dans la nation, on a exclu des gens de la nation. C'est une espèce de valse-hésitation permanente. Donc, on peut parler d'identifiants nationaux, c'est-à-dire qu'il y a des symboles, il y a des choses auxquelles on peut se référer. Surtout qu'à la fin du 19e siècle, les États, ils veulent créer des sentiments nationaux dans les peuples. Parce que ça crée du consensus, parce que ça unifie les populations. Donc on a fabriqué des cultures nationales, hein, et on les a diffusées. On les a beaucoup diffusées à l'école, on les a diffusées à l'armée, on les a diffusées par des monuments. Enfin, tous les pays d'Europe, hein, enfin, les États-nations d'Europe font ça à la fin du 19e siècle. Donc on a une espèce de... C'est une historienne qui dit ça, on a une checklist identitaire, hein, de sa propre nation. Et ça crée forcément des sentiments d'identité, d'identification et d'appartenance, mais qui par ailleurs entrent en résonance avec tout un tas d'autres identifications et appartenances. Enfin, je sais pas, moi, ok, je suis française, mais aussi je suis femme, j'ai aussi une culture politique, j'ai une identité de quartier, j'ai une identité d'athéisme, enfin... On a tous tellement d'identités que l'on active d'ailleurs selon les situations différentes. Il y a des situations où je vais me sentir française, j'en sais rien moi, devant un match de foot ou une connerie comme ça, ou c'est juste du domaine du sentiment immédiat. Et puis dans d'autres trucs, je vais pas me sentir française. Et en quoi est-ce grave ? Enfin,
Il y a une lourdeur par rapport à ce terme-là, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop... une idée trop grande qu'on s'accapare pas vraiment.
C'est aussi qu'elle est tellement instrumentalisée, cette idée. Elle a tellement été longtemps récupérée par l'extrême droite et la droite qu'on a du mal à se l'approprier. C'est-à-dire que pendant tout le 19e siècle, la nation et les idées de nation, c'est plutôt des idées de gauche. Hein. Et en fait, elle est récupérée par la droite à partir des années 1880-1890. Hein. Et donc, tous les symboles nationaux, qui sont par ailleurs des symboles révolutionnaires. Le drapeau rouge, c'est un symbole révolutionnaire. La Marseillaise, c'est une chanson révolutionnaire, qui n'étaient pas nationaux d'une certaine façon, mais qui ont été faits nationaux par la République. Comme ils ont ensuite été récupérés par l'extrême droite, c'est vachement difficile de s'en saisir aujourd'hui. Et puis, enfin, objectivement, tout le courant du nationalisme d'extrême droite, il a quand même associé tous ces symboles à de la xénophobie, à du racisme, à de l'antiparlementarisme... Ah, du sexisme, donc ça les a nécessairement entachés.
Mathilde ?
Oui ?
J'ai rencontré, moi, il y a quelques nuits de ça, des Guyanais qui étaient au centre de la place, pareil, et qui s'offusquaient parce qu'ils avaient entendu nos ancêtres les Gaulois. Ils ont dit, mais nous, notre histoire, elle n'est pas liée à celle des Gaulois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils se sentaient complètement exclus, justement, de l'histoire.
Bah ouais, cela dit, c'est pas mes ancêtres non plus, d'une certaine façon, parce que c'est une invention, hein, nos ancêtres les Gaulois. C'est inventé sous le Second Empire, au service de la propagande de Napoléon III, c'est repris par la Troisième République, mais historiquement, ça correspond plus à rien. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que les recherches historiques ont montré que... Les Gaulois, c'est le terme que César utilisait pour appeler des peuples qui n'étaient pas très unifiés, en fait. Donc, dont les frontières n'ont pas grand-chose à voir avec celles qui sont les nôtres maintenant. Donc ça n'a pas de sens. Alors, évidemment, ça en a encore moins pour tous ces territoires coloniaux qui maintenant sont des territoires d'outre-mer. Mais bon, ça reste des colonies. Hein, et à qui...
Justement, c'est bien dans la volonté d'exclure qu'on prononce ces mots.
L'idée, c'était effectivement de construire, d'assimiler des populations, Mais comment est-ce qu'on peut demander aux gens de se créer une identité en leur balançant des choses qui sont fausses et qu'ils ne peuvent, dont ils ne peuvent juste pas se saisir? Donc on peut très bien créer du commun, de l'appartenance et sans passer par le mensonge et par des trucs qui n'ont... Enfin, ça sert pas à grand chose, quoi.
Place de la Nation.
Nova.
Nova promène ses oreilles.
La semaine prochaine, nous serons sur la place végétale, sensible à la recherche du vivant sous le bitume, avec Pablo Georgieff, architecte paysagiste, cofondateur du collectif Coloco et directeur du projet de réaménagement de la place de la Nation, porté par la mairie de Paris. Cette émission sera disponible en podcast sur novaplanète.com. Maintenant, c'est le retour du grand mix, et comme disait un ami, quand ça arrive, c'est que c'est parti. Salut.
Jacques Souvent, démocratie.
Démocratie.
Souveraineté.
Fraternité.
Place de la Nation.
Nova.